Ce jour est dédié pour le rafraîchissement de Yitzhak Yaakov ben Avraham Avinu. Alors, la question de Meir.
Moi, c'est par rapport à la beauté de Jérusalem.
La beauté de Jérusalem.
La beauté de Jérusalem, quelle est la beauté de Jérusalem en soi? Parce qu'on sent vraiment quelque chose qui nous renforce, qui nous donne plus envie de y habiter, quoi.
Ok. Alors, il est écrit, si je ne me trompe pas, que 10 mesures de beauté sont descendues du ciel dans le monde, et 9 après Jérusalem, et une le reste du monde entier. Le Grise, c'était un des grands rabbins il y a une cinquantaine d'années, Rabbi Yitzhak Zev Soloveitchik, il pose la question. On voit bien que tu vois les Alpes, c'est quand même plus joli que les petites collines qu'il y a ici. Mais que moi, je pense que non. Je suis né dans les Alpes, donc j'en ai trop vu. Les chutes du Niagara, il n'y en a pas. Tu as des oasis extraordinaires en Israël. En Gedi, le 4e oasis mondial, le plus beau, 4e plus beau. Maintenant, il y en a 3 autres qui sont autre part, qui sont encore plus beaux. C'est pas Jérusalem, mais bon, mais Jérusalem, c'est le sommet d'Israël. Israël en soi. Ok, ok. En plus, Jérusalem, alors tu n'as ni cascade, ni oasis, ni plage, ni rien du tout, hein, des pierres. Des pierres. Alors il a dit, peut-être pour expliquer mieux ce qu'il va dire, je vais expliquer un peu plus profondément. Alors il y a une beauté à Jérusalem, celle dont tu parles, que tu dis que tu ressens quelque chose. On avait un élève un temps, son père était aiguilleur du ciel, Charles de Gaulle, donc il avait beaucoup de copains qui étaient pilotes d'avion, de ligne, d'accord, Air France ou autre. Et il m'a dit, beaucoup ont un appartement à Paris, un autre appartement qu'ils ont acheté, ils ont de l'argent, à Jérusalem. Pas à Rio, pas à Jean-les-Pins, pas je ne sais pas où, Jérusalem. Et ils disent, ils sentent quelque chose de spécial. Donc il est vrai que beaucoup de gens sentent quelque chose, hein, qui ne supportent pas, hein, ça dépend. J'ai une tante qui est super anti-religieuse, qui est née à Jérusalem, elle a dit « je ne supporte pas », elle habite aujourd'hui à Tel Aviv, dans les rues les plus malfamées de Jérusalem. Là, elle est bien à Tel Aviv, d'accord. Mais les gens sentent. Donc, ou en Kedusha, que tu rentres à Jérusalem, tu sens quelque chose. Pardon ?
Même quand on va à Tel Aviv, on sent que c'est...
Voilà. Ou quand on quitte, on sent qu'on a quitté quelque chose. Donc, il y a quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de physique. On ne peut pas dire que prendre une photo, c'est joli, bon, ça va. Forcément, c'est une chose qui est spirituelle. Ben, c'est clair. C'est le lieu de la Shrina, la présence divine. Il y a, bien que la présence divine, la Shrina, est partie en exil avec le peuple d'Israël, il y a un petit reste. Comme a dit Rabbi David Abouchasser, le fils de Rabbi Meir, le fils de Baba Salé, un des grands rabbins de ce monde, il a dit à nos élèves un jour, vous, à Yerushalayim, vous avez Dieu au-dessus de la tête. C'est un grand monsieur qui voit des choses, on a Dieu au-dessus de la tête. Donc c'est des choses qui se sentent. Donc il y a effectivement une beauté, mais ce n'est pas une beauté physique. Si on prend une photo de Jérusalem, on ne verra rien de spécial. Donc aujourd'hui, cette beauté, elle est en exil. Et le Grise, il a dit que quand Mashiach reviendra, donc la construction de Jérusalem, la Shrina va revenir à Yerushalayim. Bert Hashem, ce qu'on demande tous les jours dans la prière, 3 fois par jour, que nos yeux voient ton retour à Sion en miséricorde, c'est le retour de la Shrina. La Shrina va rentrer dans le temple. Berat Hashem, qu'on le voit de nos yeux, Berat Hashem, Berachamim. Alors, avec la Shrina revient toute la beauté. Toute la beauté qui était, les 9 parts de beauté qui étaient ici à Yerushalayim, elles, qui sont parties dans le monde en exil avec le peuple d'Israël. La Shrina est avec le peuple d'Israël. Donc la Shrina est partie avec le peuple d'Israël et... Alors quoi, les cascades du Niagara, tout d'un coup, elles vont s'arrêter, elles vont couler ici, les Alpes vont déménager, je pense pas. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans la nullité que nous sommes, vu qu'il n'y a pas avec nous, il n'y a pas un dévoilement de Dieu, donc l'âme a soif de ce qui est beau, de ce qui est grand, de divinité, de Dieu. Maintenant, on n'a pas maintenant d'image de Dieu, on n'a pas le lieu, le temple, c'était d'une beauté extraordinaire. On n'a plus cela. Mais on a soif de cela, donc on recherche la beauté autre part. Alors on va regarder les Alpes, on va regarder des beaux tableaux, des belles statues, on va au Niagara, dans les belles oasis, ok. Mais c'est un pis-aller. C'est quoi un pis-aller? C'est-à-dire, il n'y a pas le choix, donc on prend ça et c'est ce qu'on a. Comme j'ai expliqué sur la musique aussi. Les gens aiment la musique. Pourquoi? La musique, c'est l'ustensile numéro un, l'outil numéro un qui nous mettait en situation de prophétie avec Hachem. Dans le temps, c'est marqué dans la Bible, les prophètes voulaient se mettre en situation que Dieu leur parle, jouer de la musique, ça te met dans un état second comme ça, et était branché. Alors aujourd'hui, il n'y a plus l'émission qui vient de Dieu. Alors on prend l'outil pour autre chose, l'outil pour l'outil. C'est beau en soi, d'accord? La vraie utilisation maintenant de cet outil-là, c'est pour Hachem. La vraie utilisation de la beauté, c'est pour Hachem aussi. Tout c'est pour Hachem, parce que Hachem c'est la source de toute beauté, de tout plaisir, de toute grandeur, de tout ce qui est bon. Quand Hachem n'est plus là, il reste les outils. Alors on va le prendre pour eux-mêmes, ils sont très très petits, parce qu'ils ne sont pas utilisés pour leur vrai... Comme tu prends maintenant une Ferrari, c'est beau une Ferrari. Et tu la mets au soleil en plein été, et tu fais un œuf au plat sur le capot, c'est génial. C'est beau une Ferrari, un œuf à la Ferrari, un œuf au plat à la Ferrari. Bon, c'est sympa, mais c'est dommage. Tu n'as pas utilisé la Ferrari dans tout ce qui est effectif. Ou tu dors la nuit dedans, bah, tu ressors un peu courbaturé, c'est pas génial une Ferrari pour dormir dedans, on préfère un lit... D'accord.
Si la Shrina est en exil avec nous, elle nous suit alors?
Elle nous suit en exil, bien sûr.
Ou qu'on soit, elle est avec nous.
Ou qu'on soit, elle est avec nous.
C'est un bien, finalement.
C'est un bien, bien sûr, pour ça qu'on est éternel.
Et quand les juifs
viennent? Que tu vois que le peuple essaie de nous descendre et on nous annihiler, on toujours, parce que la Shrina est éternelle, elle est avec nous. Et c'est elle qui revient en exil. C'est elle qui revient d'exil, elle nous prend que c'est. Du coup, quelqu'un, il est pris comme ça, il est venu en Israël. Des fois, il y a un stop, il est encore, parce que l'exil n'est pas fini, il y a encore un travail à faire. Mais quand l'exil est en train de prendre fin, il semblerait que c'est la fin, alors on revient. Et avec cela, toute la beauté, toute la Shrina va revenir en terre d'Israël, et on verra. On verra la beauté, mais on ne verra pas une beauté. Si on prendra une photo, on verra les Alpes, et on verra le temple de Jérusalem. Alors les deux, ok, c'est des pierres, et c'est les Alpes, c'est très beau. Mais plus personne ne sera intéressé par les Alpes. Parce que les pierres, elles vont parler. Les pierres, on dit que Jérémie a rencontré Platon, Jérémie le prophète. Et Platon ne comprenait pas pourquoi Jérémie a vu la destruction du temple. Et il a parlé un peu avec Jérémie, c'était un homme d'une intelligence extraordinaire, c'est un prophète. Il dit, comment toi, un homme intelligent comme toi, tu pleures pour des pierres? Il lui a dit, d'abord sache que toute mon intelligence provient de ces pierres. Et une deuxième réponse que je dois t'expliquer. Je pense qu'on ne peut pas expliquer c'est quoi la Shrina. On ne peut pas expliquer c'est quoi la beauté de Jérusalem. Nous, on ne l'a pas vécu. C'est ce qu'on pleure à Tisha B'Av. Tisha B'Av, on doit pleurer la destruction du temple. Ok, c'est bien gentil. Qu'est-ce qu'on va pleurer? C'est un joli bâtiment, il y avait des sacrifices, sympa. Alors on va dire, on explique un peu plus, il y avait des grands miracles au temple, d'accord. La fumée toujours, elle montait tout droit, bien qu'il y avait un grand vent, beaucoup de vent, jamais une mouche, il y avait plein de sang, il y avait une mouche. On jetait les parties d'animaux à un certain endroit, ils étaient avalés sur place par un sol de dalle. C'est des miracles, beaucoup de miracles au temple. Ok, mais ça reste très 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 superficiel. Le sens de tout ça, tu avais une présence de Dieu. On amenait un sacrifice de Re'iya, de vision de Dieu. Olat Re'iya. On allait voir Dieu. On voyait quelque chose. Qu'est-ce qu'on voyait? Dieu, il n'y a pas d'image. Ben, on voyait un truc dingue qui se passait. Les gens étaient... Quand tout le monde se prosternait devant Dieu, à Yom Kippour, tout le monde se prosternait. Dans le temple.
À genoux?
À plat. À plat. Maintenant... Ils devaient tous se mettre dans la Hazara. Dans la Hazara, exactement. Quand le Kohen Gadol prononçait quatre fois, Yom Kippour prononçait le nom ineffable, le nom de Dieu qu'on n'a pas le droit de prononcer. Il le prononçait en fait 10 fois. 10 fois. Mais à 4 occasions, donc trois, il fait 3 vidouilles. Dans le vidouille, il disait Anna Hashem, Anna Bashem, etc. Donc il disait 3 fois, dans chaque vidouille, il disait le nom de Dieu. Donc 3 fois, 3 vidouilles, ça fait 9. Puis une fois, il disait. C'est Khatat Lachem, parce que le sacrifice qui était sacrifié, il y avait un qui partait à Azazel, qui était envoyé dans le désert, le deuxième qui était sacrifié à l'intérieur du temple, du Saint des Saints, du Saint en tout cas, non, du Saint des Saints aussi, on aspergeait dedans, son sang, il disait Khatat pour Hachem, il disait le nom ineffable de Dieu. À ce moment, tous les juifs qui étaient présents se prosternaient à plat. Maintenant, où? Les juifs pouvaient rentrer que dans l'Azarat Israël. L'Azarat Israël, elle faisait 5 mètres de large sur 30 mètres de long. Ah, comment on pouvait tous rentrer? Alors, ils dégageaient sur les galeries qui étaient autour. Hein, t'avais le temple, c'est une sorte de grand rectangle comme ça. Au milieu, tu as le saint avec le saint des saints. Tu as le Mizbeach, l'autel, était une petite cour dans laquelle les Juifs Israël pouvaient rentrer. Alors, ils débordaient dans les galeries qui étaient autour. Maintenant, que devaient se prosterner, ils devaient tous arriver ici. Alors, miraculeusement, tout le monde arrivait là. Et il fallait qu'il y ait 2 mètres d'écart entre chacun. Parce que quand on se prosternait, on disait le vidouille. J'ai fréquenté la voisine. Et le voisin, il est à côté. Ah, s'il m'entend, je me fais... d'un côté, je fais le chouva, d'accord. Je ne vais pas raconter mon linge sale en public. Donc, il fallait qu'il y ait 2 mètres entre tout le monde. Alors, dans ces 5 mètres de large, 30 mètres de long, tout Israël rentrait. Ça pourrait s'arrêter, il y avait 2 mètres entre chacun. Et quand ils se levaient, ils étaient, c'est marqué que... les gens, ils flottaient. C'est quoi flottaient? Que si les gens, c'était tellement serré, que s'ils levaient les pieds, ils ne tombaient pas. Et jamais personne n'a dit, quand je monte à Jérusalem, on est serré. Ça veut dire que c'est une autre dimension. Une autre dimension. Ça, c'est des petits miracles superficiels que je vous raconte, pour comprendre un peu ce qui se passait. Dans le Saint des Saints, c'est connu. Dans le Saint des Saints, tu avais... c'est dans le sanctuaire, je vous donne les mesures du sanctuaire, mais c'est la même chose dans le Saint des Saints qu'il y avait dans le temple. Tu avais 10 coudées, c'est un carré de 10 coudées sur 10. 10 sur 10. Maintenant, si je calcule la distance qu'il y a d'un mur à un autre, j'avais 10. Maintenant, je calcule la distance qu'il y avait jusqu'au tabernacle. Tabernacle, c'est cette sorte d'armoire, dans laquelle, cette caisse d'or, dans laquelle il y avait les tables de la loi. Elle faisait une coudée et demie de large. Je mesurais, on la mettait au centre, donc je mesurais 5 coudées, j'arrivais au tabernacle, plus 1,5, plus 5, ça fait 11,5. Bon, on calculait, ça faisait 10. Non, ça veut dire, je mettais ça au milieu, je comptais 5, 1,5, 5, donc j'ai 11,5. Et je compte à côté 10, à tous les deux côtés 10, et c'est un carré parfait. C'est-à-dire que le tabernacle ne prenait pas de place. Et pourtant, quand je mesure, il est là. Donc c'est une autre dimension. La dimension de la Shrina, la dimension de la présence divine, qui fait que tout est différent. Jamais un scorpion ou un serpent ont piqué à Jérusalem, etc. Beaucoup de choses. Même aujourd'hui, quelqu'un, il habite Ranana, par exemple. Il a la villa, 3 étages avec piscine dans chaque chambre. D'accord. Il veut maintenant, lui ou sa femme, un des deux, veut aller habiter dans un boui-boui à Jérusalem. Mais un boui-boui de boui-boui, hein. Et bien, si l'un des deux conjoints ne veut pas, d'après la Shulchan Aruch, Eben Ezer, Tom Eben Ezer, chapitre 75, ou dans Traité Ketubot, page 111b, il lui donne le get, bye bye.
Bon. Hein? Même si c'est la femme qui veut.
Ouais, la femme qui veut, elle part, elle prend la Ketubah, elle prend l'argent qu'il lui a promis. Et si c'est elle qui ne veut pas, lui part, elle ne donne aucun argent qu'il lui a promis. Alors, on va essayer de ne pas faire cela, on va essayer de mettre le Shabbat entre eux, d'accord, que ça s'arrange. Qu'il ait la piscine aussi, c'est à Jérusalem. Mais c'est pour vous dire maintenant comment Chazal conçoivent, non pas de partir de Paris pourri à Jérusalem, que ça tout le monde comprend que c'est bien, mais Ranana, le bord de mer, c'est bien, Style, tout ce qu'il faut, d'accord, ou Savion, il y a d'autres endroits en Israël. Tellement c'est grand. Pourquoi c'est grand? C'est la présence divine. La présence divine. Nous, on sent aujourd'hui ce qu'on ressent, c'est 1 000 000 de 1 000 000 de rien. Et déjà, les gens sentent. Mais imagine quand ça va être vraiment le grand moment qui est très très proche.
Le syndrome de Jérusalem.
Ah, syndrome de Jérusalem, ouais, ça c'est autre chose encore. Notre terre, c'est la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'ici, véritablement, le juif peut se réaliser. Notre but, c'est de nous unir à Hachem, de recevoir en nous des parties divines. Quand on fait des mitzvahs, on amène sur nous des parties divines qui deviennent nous-mêmes. Tu deviens divin. Ce qui est le plus grand kiff qu'il puisse y avoir. Déjà expliqué quand on fait le mot mitzvah. Mitzvah, c'est 4 lettres. Dans votre sens, ça fait mem, tzadik, vav, hei. Les dernières lettres sont les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Yud, ke, vav, ke. Qu'on n'a pas le droit de prononcer. Les 2 premières, mem, tzadik, sont les 2 premières lettres du nom de Dieu. Mais dans l'alphabet kabbalistique, qu'on appelle atbash. C'est quoi atbash? C'est la première lettre. A correspond à Taf, la dernière, At. Après Bet, la 2e lettre, correspond à l'avant-dernière, Shin. Gar, Dak, Gimel, Resh, Dalek, Kouf, etc. Les lettres même sadiques en Atbash correspondent à Yud et puis Hei. Donc le mot mitzvah est en fait composé de 2 lettres qui correspondent à Yud et puis Hei en Atbash et à Vav et puis Hei, donc les 4 lettres du nom de Dieu. Quand tu fais une mitzvah, tu réalises une réalité divine qui devient toi. Mitzvah, c'est une fausse tzavta, c'est une union. Tu t'unis avec Dieu. Tu reçois une partie de Dieu. Un point tel que la Gemara dans le traité Bava Kamma, page 75b, dit qu'à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Un tzadik qui a pris tellement sur lui d'essence divine, il devient carrément un dieu. Bon, ça sera quand Machar viendra, pas comme le type qui a dit ça il y a 2000 ans qui a mal fini. C'est pas encore, pas maintenant. Maintenant, en terre d'Israël, c'est là le véritable endroit où on peut faire ces mitzvot-là. Chazal disent que quand on partira en Galout, il faut quand même continuer à faire la mitzvot. Pourquoi ? Il y a un petit mérite à cela. Lequel ? On n'aura pas oublié quand on revient dans la terre d'Israël comment il faut faire. Et ce mérite, c'est un grand mérite. Parce que grâce à ça, à la fin, on pourra vraiment se réaliser. Sans ça, il n'y aura plus le peuple d'Israël. Donc on doit faire la mitzvot à l'étranger. Ils ont beaucoup moins d'impact. Idem, les péchés. Quelqu'un qui fait des péchés, mais vous, qui reste à l'étranger, parce que vous pouvez venir ici en Israël, dans le palais du roi. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Quelqu'un qui déshonore le roi 10 km de la maison du roi, c'est moins grave qu'en face du roi, dans sa chambre intérieure. D'accord ? Pardon ?
C'est grave.
Quand même grave, bien sûr, c'est quand même grave. Mais c'est moins grave. Donc le vrai endroit où on peut se réaliser, c'est ici en terre d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est en terre d'Israël, quand quelqu'un n'est jamais venu en terre d'Israël, il a que. On a plusieurs parties d'âme. Hein. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Maintenant, chaque partie, elle est composée de cinq aussi, qui elle-même est composée de cinq, etc., jusqu'à l'infini. Quand on vient, on n'a jamais venu en Israël, on n'a que le Nefesh, que la première partie. Maintenant, pas la première partie générale, ça se peut qu'on ait déjà tous les cinq. Peut-être qu'un endroit, là, dans le Neshama, on a un endroit à cinq, il nous manque, on n'a que un. Je ne sais pas exactement où ça se passe. Pas dire que quelqu'un qui est à l'étranger, il n'a rien du tout. Il a un, mais ce n'est pas le un total. Il a un. Il y a beaucoup d'aspects qui, dans la halakha qui disent que lorsque tu ne fais pas une certaine mitzvah, il te manque ces parties d'âme. Par exemple, quand on fait la prière le matin, on reçoit ces parties d'âme. Quelqu'un qui n'a pas dit barakhou en public, alors il lui manque. Asher neshama ba'apo, il lui manque une partie de la neshama. Le Ben Israël dit que si on ne suit pas avec les tefillin après la prière, on ne va pas recevoir les parties ruach neshama. On ne reste que nefesh. On ne suit pas avec les tefillin. Après la prière de Shachrit, étudier avec les tefillin sur soi au moins quelques secondes, on ne peut pas avoir ça. D'accord ? C'est la prière, c'est un flux qui vient.
Même avant ou après ?
Après, c'est marqué après. Maintenant, avis aux ceux qui font des rabais, d'accord ? Ils passent un peu, ils partent déjà, ils croient que Anou Shabéar, c'est la tadère, c'est la prière de la route. Quand on vient, on est sur la première fois, on reçoit le Ruach. À mon avis, c'est la raison profonde du syndrome de Jérusalem. Les gens viennent ici, ils sont en état de choc. Ou à l'aide à l'aéroport quand ils atterrissent, ou quand ils viennent à Jérusalem. Parce qu'ils reçoivent tout à coup, boum, un supplément d'âme. Ils sentent un truc qu'ils ne savent pas comment définir. Et d'habitude, quand on reçoit un supplément d'âme, on pleure. Ça arrive à ceux qui font tchouva de façon assez rapide. D'habitude, ils ont une petite crise de larmes. Parce que tout à coup, maintenant, l'âme qui était complètement fermée, tout à coup, elle s'ouvre, comme ça, elle reçoit de Dieu tout un flux énorme. D'accord, c'est des choses qui sont courantes. Ça, c'est quand on a mis les pieds à Jérusalem ou en Israël, première fois de sa vie. Après, quand on vient habiter, on reçoit Neshama. Et si on bosse bien, on reçoit aussi Chaya et Yechida. C'est ça qu'on vient habiter de façon
n'importe où.
Pardon ?
N'importe où en Israël.
N'importe où en Israël. Quand on va habiter, c'est de façon fixe. C'est pour cela qu'à l'étranger, il doit faire deux jours de Yom Tov. Ils n'ont pas les outils spirituels qui leur permettent de recevoir toute la lumière qu'ils reçoivent en un jour. On doit faire ça en deux jours. Ils ont des petits outils. En Israël, on a des gros outils, donc on reçoit tout d'un coup et c'est beaucoup mieux.
C'est quoi qu'on appelle habiter ?
Habiter ?
Ouais.
Quoi habiter ? Moi, t'habites où ? Israël. Voilà, c'est bon. C'est où ? C'est
un appartement ou être à Yeshiva, par exemple ?
Si quelqu'un a décidé maintenant qu'il habite ici, même quand il n'a pas encore où habiter, il a atterri à Jérusalem, il a atterri à Lod, il descend de l'avion, il a posé les pieds sur la terre ferme. Moi, c'est fini l'étranger. Il ne sait pas encore où habiter dans une tente, d'accord ? Il habite Israël. Voilà, terminé. C'est une décision où je décide d'habiter. Où sera dorénavant mon habitation fixe ? Je partirai peut-être de temps en temps en vacances. Là, histoire en France, mais j'habite Israël.
Si la Gomata, vous n'êtes pas parti en France ?
Je pars une fois par année, le 19 février, pour dîner de gala annuel de l'EHAVA. Dans ma jeunesse, j'ai failli jurer que plus jamais je quitterais Israël. Heureusement que c'était encore avant que j'allais au séminaire. J'étais Bachouva fou et sur Jérusalem, des questions.
Les 10 mesures, quand on dit mesure, parce qu'en musique, par exemple, on parle de mesures aussi, c'est oui. Des sons, c'est...
Non, des quantités. Il y a 10 quantités de Dieu a amené un flux, comme ça, un conteneur de beauté dans le monde, on l'a partagé en 10, 9 ont pris Jérusalem et 1 le reste du monde.
C'est des quantités, donc il n'y a pas d'infini là-dedans.
Non, il n'y a pas d'infini. La beauté n'est pas infinie. La beauté de Dieu est l'infini.
Prendre cette beauté à l'extrême, quoi.
Pardon ?
On peut ressentir, comprendre cette beauté à l'extrême.
Oui. Et quand ma chair viendra, il y aura la présence, le dévoilement de Dieu beaucoup plus grand pour arriver à des niveaux beaucoup plus hauts de compréhension de cela. Que devenir complètement fou. On va beaucoup se purifier, on sera comme des anges à un moment. Ça l'essayera de façon progressive. D'ailleurs aussi, la terre d'Israël va changer. Tout le monde entier recevra la sainteté de la terre d'Israël, et toute la terre d'Israël recevra la sainteté de Jérusalem.
Et du coup, il y aura de plus en plus de fous, quoi, parce que là, si on arrive et qu'on est un roi, on a des crises de larmes, que certaines se prennent pour ma chair, etc.
Non, attends. Syndrome de Jérusalem, c'est un choc, crise de larmes, c'est tout. Pas prendre pour ma chair.
C'est un choc aussi, je veux dire.
Bien sûr qu'il y aura un choc.
On va passer d'un monde dans lequel on n'est pas adapté à...
C'est pour ça qu'il faut se préparer déjà aujourd'hui, cette période-là, en se purifiant, comprendre que toutes les choses sur lesquelles nous comptons ne seront plus là. Il n'y aura plus l'argent, il n'y aura plus le travail, il n'y aura plus le plaisir de ce monde. Il y aura Hachem, la prière et la Torah.
Mais on sera bien quand on va être heureux, parce que c'est vrai que c'est ça, mais on va être heureux.
Super heureux, il n'y aura plus de mal, plus rien. On fera trrrt, trrrt, rien que du bonheur.
Et s'il y aura un mal, ce sera le fait de se reproduire, non ?
Non. Pourquoi ? On se reproduira en sainteté. Chazal ont dit que depuis que le temple est détruit, on n'a plus le goût de la relation sexuelle. Tout ce qu'on a aujourd'hui comme goût, c'est... Là revient le vrai bon goût. Qu'est-ce qu'il faisait le premier homme avec Rava dans l'Amaba ? La relation sexuelle.
Non mais c'est de la... Je veux dire...
Ce qu'il faisait, c'était ça, c'est ce qu'il faisait.
Du matin au soir.
Mais pas comme toi tu ferais avec une fille, non, d'accord ? C'était l'union. C'est l'union, c'est une union. Tout dans les mondes spirituels, c'est toutes des unions. Quand on fait une mitzvah, on fait une union. Une union entre la partie, une partie mal, on va dire, chesed, tout ce qui est donne, toutes les parties d'Hachem qui donnent, dans les voies de conduite par lesquelles Dieu gère le monde, il y a chesed, ce qui donne et qui reçoit. Donne, reçoit, ça s'appelle mâle, femelle. Quand il y a un flux qui passage, on appelle ça union. Mais il y avait ça. Quand Machar viendra, on sera pas comme ça, on sera avec Hachem comme ça. Tu comprends ? Comment ? Par l'étude de Torah, par la prière, par la prophétie, l'union avec Hachem, les sacrifices. À un moment, le corps de matière que nous avons, qui est fait de beaucoup de matière grossière, va se purifier à un point tel que tout va se changer en lumière. Donc tu auras une oreille de lumière, tu auras un nez de lumière. Hein ?
Il n'y aura plus de matériel.
Il y aura un matériel, mais il sera lumineux. Il sera plus le même qu'aujourd'hui. Ça sera tout de lumière. L'âme qui est aujourd'hui de lumière va arriver à un niveau plus haut que les anges, et le corps va arriver au niveau des anges. Mais le corps, on aura un corps. On a un corps qui va être très 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 pur. Quand le premier homme il a péché, il avait un corps de lumière, le premier homme. C'est pour ça qu'à l'Abdallah, on montre maintenant les ongles. Les ongles, c'est un souvenir de le reflet de lumière du premier homme qui était entièrement tziporen en hébreu ong, c'est une contraction de tzipui or. Tzipui or, c'est un revêtement de lumière. C'est comme ça qu'on fait la vedette, c'est pour des raisons. C'est comme ça qu'on doit faire pour des raisons kabbalistiques que j'ignore. Comme ça, on regarde la lumière en mettant le pouce dedans.
Le pouce, il ne s'y compte pas.
Voilà. Quand le premier homme il a péché, les habits de lumière qu'il avait, comment on dit lumière en hébreu, or, aleph, vav, resh, ont été transformés en habits de or. Or, c'est quoi avec un ein de peau? C'est ça. Pas qu'on l'a mis une toque de fourrure comme l'homme de Cro-Magnon, toc, toc, toc. Il écrivait avec une. comme ça, avec son marteau. D'accord? Il a reçu c'est notre corps à nous. Mais il est grossier. Nous, on veut venir au corps de lumière. On va briller plus que le soleil. C'est beau, hein ? Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Il faut bien bosser, faire tchouva, et bien, ça pour très bientôt. Bah, ouh, allô, naïve, amen.